Bonne fête.
Si vous n'avez pas encore votre billet d'entrée à la fête, vous pouvez l'acheter ici auprès des vendeurs officiels. Bienvenue à la fête de l'Huma.
Bienvenue à la fête de l'Huma. J'étais justement en train de se dire que ça faisait plaisir. On se sentait vraiment... On avait envie d'être là, on avait envie de... Je suis pas militant PC, je suis, on va dire, un grand sympathisant.
Je suis communiste, oui. Unité communiste gardoise. Et je suis là aussi pour les prochaines élections, débattre pour le rassemblement. Et puis, le débat jusqu'au bout, surtout. Voilà.
On vient de Marseille. Vous ne m'en rendez pas ?
Non, je peux vous redonner ça, si vous voulez.
Oui, c'est pour le plaisir d'avoir...
Pour le magazine, pour s'abonner.
Voilà, voilà, merci.
Voilà, c'est le bracelet rouge.
Solidarité avec la presse progressiste algérienne, Algérie Républicain.
Cherchez un journal solidaire, combatif, proche de vous. Ouvrez et découvrez l'humanité.
J'y viens tous les ans depuis 25 ans déjà.
La jeunesse est un voyage.
Chômeur. Chômeur.
Ça arrive.
Beaucoup. Non, je suis ici à la fête de l'Huma, être chômeur, sans profession, vraiment dans la galère.
Alors on a intitulé ce débat, on a voulu une question provocante, volontairement provocante. Parce que le paysage de la presse aujourd'hui, il est très très secoué. On est bien placé à l'humanité pour le savoir. La presse a-t-elle déjà perdu la partie? Voilà notre question aujourd'hui.
De telle sorte qu'on puisse chacun donner des éléments d'analyse pour se faire son propre opinion, pour bâtir un monde commun. Et évidemment ce monde commun, c'est un monde contre la haute finance.
Voilà, ambiance hier à la fête de l'humanité avec le directeur du journal L'Humanité, avec Jean-François Kahn, un débat auquel j'ai eu la chance de participer. Je remercie tous ceux qui étaient là hier à midi au stand des Amis de l'Humanité. Et on a passé une excellente journée hier à la fête de l'Huma. Il n'a pas plu, contrairement à ce qu'espéraient les forces du capital et de la réaction. Il a fait beau et c'était un grand moment, une petite carte postale sonore signée Antoine Chao. Les messages sur le répondeur de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. Ça a chauffé tout le week-end.
Bonjour, salut à tout le monde. J'écoute les informations là et j'ai encore entendu le truc s'agissant de Benoît XVI qui critique la violence de l'islam et l'organisation de la conférence islamique de je ne sais quoi qui réclame des excuses. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter tous ces espèces d'illuminés? Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Depuis que les religions existent, ils n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule tous autant qu'ils sont. Quand est-ce qu'ils vont arrêter et nous fichent la paix par la même occasion? Parmi les auditeurs, vous qui êtes croyants, arrêtez s'il vous plaît de vous faire blouser. Vous êtes en train de vous faire tromper, trahir depuis des milliers d'années. Ces gens-là n'en ont rien à foutre de votre vraie foi. Ils sont uniquement là pour leur boutique et leur grand boutiquier là-haut. C'est pas une insulte à la vraie foi, mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, vous êtes en train de vous faire rouler. Ils ne savent que se taper dessus pour prétendre qu'ils sont les meilleurs. Qu'est-ce que c'est que ces soi-disant religions d'amour? Mais j'en peux plus d'entendre des choses comme ça. J'en peux plus.
Bravo le pape, c'est formidable. On se demandait quand la Troisième Guerre mondiale allait éclater. Eh bien après ses propos sur l'islam, je crois que ça va pas tarder. Bon, je lui en veux pas au pape, je crois simplement qu'il est frappé d'amnésie. Parce que qui est-ce qui a déclenché les croisades? Moi, je suis un peu historienne. Alors, la prise de Constantinople par les croisés, viol, pillage, massacre, au nom du Christ qui était l'homme le plus tolérant et le plus doux du monde, c'était pas mal. Les guerres de religion, c'était pas mal. Le massacre des cathares, hein? La mise à sac du Languedoc, ça vous dit quelque chose? Et puis alors l'Inquisition, fantastique. On pouvait aller au bûcher, même sans être jugé, simplement sur accusation. Le choyer de la barre qui a été torturé à mort à 17 ans parce qu'il n'avait pas enlevé son chapeau au passage d'une procession, c'est pas mal non plus. C'est une religion vachement tolérante, hein. Et le massacre des Indiens d'Amérique du Sud, ça j'avais oublié, hein. Mais le plus grave, ça a été l'aide de l'Église catholique aux nazis par le Vatican après la Deuxième Guerre mondiale. tout le monde la connaît, ou si vous la connaissez pas, reportez-vous à l'histoire de la Croatie. Il y avait une filière très bien organisée par les Croates, l'État croate ayant été d'un fascisme extrêmement virulent, d'un catholicisme complètement paranoïaque, et il faisait passer tous les criminels de guerre nazis, ça s'appelle la filière White Lines, ça veut dire la filière des rats, pour s'en aller en Amérique du Sud. Voilà.
Je vous informe que depuis le 1er septembre, France Inter, La Différence, étant devenue une annexe du Parti Socialiste à longueur d'antenne, non seulement dans les journaux parlés, mais dans toutes les émissions au titre fallacieux qui sont un véritable marketing politique, je ne suis plus auditeur de cette station.
Bonjour l'équipe, nous sommes dimanche soir, 22h, et je viens de finir d'écouter l'émission de Daniel sur La Dernière Demeure. C'est formidable la technique, ça permet d'écouter là-bas, même le dimanche soir maintenant. Alors, bon courage, tenez bon, il y aura de plus en plus d'auditeurs.
Je voudrais savoir, étant donné que je considère Daniel Mermet comme un monument de la radio, quand est-ce qu'on peut le visiter ?
Bonjour Daniel, c'est Leïla. Je t'appelle parce que je viens d'écouter le reportage de Pascariello, sur les chemins de l'école, et je suis très émue. J'imagine cette rencontre avec la petite fille que j'étais. Et tu vois, ça me touche beaucoup.
Mais merci les hauts décideurs de France Inter, vous nous avez obligés à nous mettre à l'heure informatisée et cela nous enjolive nos après-midi laborieuses. En effet, nous écoutons en travaillant votre émission. Par rapport à l'émission de vendredi 15, et oui, c'était les Italiens et les Espagnols qui subissaient le racisme. Alors ne faisons pas subir cela à d'autres immigrés. Ayons de la mémoire. Même vous, Monsieur Sarkozy, vous venez de cela, les immigrés en culottes dorées, peut-être, mais immigrés quand même. Merci à Daniel Mermet et à toute son équipe. Courage, et n'immigrez pas dans une autre radio. Et comme disait la dame d'aujourd'hui, essayons d'aller vers la liberté. Au revoir.
Beaucoup d'émotions à la diffusion de votre petite séquence nostalgie, enfance et école. J'allume mon poste à 15h et qu'est-ce que j'entends ? La voix de mon institutrice, Madame Picard, qui ont fait ressurgir en moi toutes les émotions dont elle parle, évidemment, une génération plus tard, mais quel bonheur de retrouver sa voix, son humour, et j'en suis toujours aussi émue, je vous remercie de l'avoir interviewée. Je me souviens de mon institutrice sérieuse mais rebelle, comme elle dit, et ma foi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Merci à vous.
Je me souviens le reportage de Pascal Pascariello de vendredi a suscité un remue-mémoire des tabliers noirs à la croix. On se souvient pas de ça, on portait une croix quand on avait bien travaillé. Il y avait la croix d'honneur, la croix d'excellence, et voilà, il y a tout un beaucoup de nostalgie, de mémoire dans le répondeur de la basse, j'y suis. On parle de religion évidemment avec la déclaration du pape et les réactions du monde musulman, et on s'interroge une fois de plus sur le poids de la religion dans la colonisation des esprits, le façonnage des esprits enfantins, etc. Il y a autre chose qui continue ou remplace peut-être cette colonisation des esprits, c'est la pub. On va rester à l'école aujourd'hui. La pub à l'école, jusqu'où faut-il l'accepter ? Faut-il l'accepter ? Comment l'accepter ? Puisque nous sommes tous des consommateurs, c'est comme ça que certains nous voient, alors il faudrait consommer comme ci ou comme ça, ou faut-il complètement refuser la consommation ? Vous connaissez ces thèmes-là par cœur, mais quand même, je pense que vous allez découvrir un certain nombre de choses et des analyses dans l'émission d'aujourd'hui, qui est un reportage d'Olivia Gesbert. Je pourrais dire aussi à une auditrice, Nejma, qui nous demande s'il y a des repères à Paris. Eh bien oui, Nejma, il y a un repère des Amis de la Bastille, j'y suis, à Paris, qui s'appelle le lieu dit, et c'est 6 rue Sorbier, dans le 20e arrondissement, et la prochaine réunion des Amis de la Bastille, j'y suis, les AMG, les auditeurs modestes et géniaux, c'est le samedi 7 octobre de 16h à 18h, et on est en train de mettre à jour la liste des repères de la Bastille, j'y suis. C'est Renaud qui s'occupe de ça. Et bientôt, vous aurez une liste tout à fait à jour, tenue à jour rigoureusement, sur le site là-bas.org, là-bas.org. Voilà, quelques messages encore, et puis, enfant roi, enfant proie.
Dimanche 24 septembre 2006, à la Roche-Vineuse, aura lieu la troisième fête altermondialiste mâconnaise. À l'initiative d'Attaque Mâcon, il s'agit du principal rassemblement associatif de ce genre dans la moitié sud de la France. Plus de 70 associations seront présentes, plusieurs milliers de citoyens sont attendus. Marché paysan, forum discussion sur travail et médecine, marché de l'eau dans les communes, prolifération du nucléaire, etc. Invité principal, Dominique Plion, nous parlera des 30 dernières années du capitalisme. C'est Cannelle et Piment, association de femmes africaines, qui assurera les repas, musique à gogo. N'en déplaise à tous les pisse froids du réalisme économique et aux tristes cires du fatalisme, un autre monde est possible. Nous le voulons, nous le préparons, il est vital et nécessaire, et nous sommes debout, joyeux et vivants. Salut.
Alors moi, voilà, je vous connais depuis 2 ou 3 ans. Je vous suivais régulièrement lorsque vous passiez à 17h parce que ça tombait pile poil quand je rentrais du boulot. Voilà, maintenant je peux plus vous suivre à cette heure-là, mais en fait, comme j'ai un mari formidable, eh bien, il me ramène vos émissions, il les télécharge sur Internet et puis il me les ramène à la maison. Et puis, ben, sur mon lecteur MP3, je peux vous écouter hein, finalement quand je veux. Donc voilà, je vous embrasse et puis à bientôt, au revoir.
Ben moi, je voulais remercier la direction de France Inter, parce que depuis cette année, depuis cette rentrée, donc je n'écoute plus France Inter que de 15h à 16h pour écouter là-bas si j'y suis. Mais du coup, il a bien fallu que je cherche une autre radio. Et j'ai trouvé sur France Culture une émission de 17h à 18h qui s'appelle Du grain à moudre et qui est géniale aussi. Alors, je voulais en faire part à tous les auditeurs parce que franchement, c'est super. Voilà, ben continue, hein, c'est toujours aussi bien et puis c'est toujours aussi génial et puis voilà. Je vous embrasse tous, au revoir.
Bonjour Daniel, la résistance s'organise à Aix et à Marseille. Après avoir fait un état des lieux de la situation et de l'évolution de France Inter, nous avons convenu de la nécessité qu'avaient les auditeurs de peser davantage sur leur radio de service public. Et ce, pour plusieurs raisons. Le statut particulier de France Inter donne une responsabilité particulière à chaque auditeur. La réaffirmation d'un statut auditeur-citoyen, qui est à l'opposé de la notion libérale auditeur-consommateur que veut imposer la direction de France Inter. Affirmer une exigence démocratique face à l'absence de pluralisme dans les médias. Face à nos responsabilités d'auditeurs, nous avons décidé non pas de boycotter France Inter. Il n'est pas question pour nous d'abandonner aux libéraux une radio qui appartient aux auditeurs, mais au contraire d'avoir une écoute encore plus vigilante et encore plus critique de France Inter. Chaque fois que nous noterons des manquements de la part de France Inter, nous le ferons savoir avec humour, tact et délicatesse. Bref, c'est le début de la campagne modeste et géniale qui a pour objet de taquiner France Inter dans cette dérive. C'était Dany d'Aix-en-Provence, un auditeur modeste et génial. À bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Olivia Gesbert, de l'enfant roi à l'enfant proie.
À vos marques, prêts,
servez. C'est l'heure de nos céréales, les
squishies. Erta, le goût des choses simples. Le futur passe et devient la star. Oui, la star de la prochaine pub Plunge.
Chargez mon nouveau enfant, j'imagine qu'il vit de grand.
Les mots qui s'offrent pour Tony Parker.
Frosty, j'ai du lait en barre. Frosty sur une couche de lait pour qu'elle rentre dans un sac. Coco Pops,
une pédophilie mentale. Pédophilie mentale. Il faudrait inventer le délit de pédophilie mentale. De tous les crimes, la pédophilie est sans doute à juste titre le plus honni, abusé de l'innocence et de la confiance d'un enfant. Mais que fait la publicité? Quelle différence lorsque l'enfant s'éveille et s'émerveille au mystère et aux merveilles du vaste monde et de la vie? Danone est déjà là. Danone ou une autre marque à la maternité, à l'orée de la vie. Lorsque la mère étonnée regarde son petit, entre la mère et l'enfant, il y a aujourd'hui une page de publicité. Il y a au chevet du berceau des cadeaux, un magnifique coffret de nos produits. Parlant comme je le fais, j'enfonce des portes ouvertes, mille fois ouvertes, surtout pour les auditeurs de France Inter, qui sont connus comme des publiphobes. Publiphobes, tiens, arrêtons-nous un instant sur ce mot de publiphobie. Pourquoi seriez-vous publiphobe? D'ailleurs, ça ne vous différencie pas de la majorité des Français, car la majorité des Français le sont publiphobes. Mais là, le mot, l'élément phobie dans le mot publiphobie suppose une maladie, une névrose, qui suppose des soins, une psychothérapie, comme s'il était normal de supporter la pub, voire même d'aimer la pub, mais être contre la pub serait une malformation psychologique, une déformation psychologique. On va pouvoir mesurer, à travers le reportage d'Olivia, à nouveau, ce que fait directement la pub à l'enfant. Tous les efforts qui sont faits, ça date pas d'hier, la pub. Chemin faisant, on va tomber sur des vieilles pubs d'autrefois, et on verra que ça date pas d'hier, de la réclame à la publicité. Tout cela a été raconté, balisé. N'empêche que cette critique de la pub, elle est relativement limitée. Limitée parce que tous les médias, à l'exception de quelques-uns, dont France Inter, et quelques rares supports aujourd'hui, quelques rares médias, sont dispenser de pub, encore que nous en ayons quand même un petit peu, nous. Mais il est évident que la plupart des médias doivent ménager les annonceurs. Les annonceurs de quoi? Les annonceurs de tout. Il y a des annonceurs d'un tas de produits, et ce qui fait que ça ne va pas sans infléchir la ligne éditoriale, la liberté de la presse, et donc de l'expression, et donc de la démocratie. Aujourd'hui, on se concentre plus sur les enfants face à la pub, et essentiellement à travers la télé, mais on le verra pas seulement devant la télé. C'est là-bas si j'y suis, c'est France Inter, de l'enfant roi à l'enfant roi.
Répète après moi.
Répétez après moi, c'est fou comme on se la pète.
C'est fou comme on se la pète.
Répétez après moi, on se prend pas pour de la merde.
On se prend pas pour de la merde.
Répétez après moi.
Après moi. Et répète après nous.
Après nous.
Dans l'œil.
Tu te mets le doigt dans l'œil.
avait fait ces dessins, en fait?
Oui.
Dis-moi un peu ce qu'il y a écrit.
Chloé joue avec son bébé. Lola joue avec des koalas. Abdenbi voyage en Tunisie.
Eric est un flic.
Eric est un flic.
Erwan. Devi.
Oui.
Jason.
Lily.
Amel.
Et j'ai 8 ans.
Lily.
Bonjour, je m'appelle Amel et j'ai 8 ans.
Sofiane.
Je m'appelle Lola et j'ai 8 ans.
Maël.
Je m'appelle Maël, j'ai 7 ans.
Je m'appelle Lisa et j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Abiba et j'ai 8 ans et demi.
13.
Je m'appelle Chloé et j'ai 9 ans.
Je m'appelle Jason, j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Devi, j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Kerwan, j'ai 8 ans et demi.
Je m'appelle Merwan, j'ai 8 ans et demi.
Voilà. Voilà, en gros, les enfants qui sont là ce jour-là dans l'école Paul Langevin à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la ZEP de Rouen. C'est une classe de 13 enfants. Il y a une dizaine d'enfants qui sont issus de l'immigration, avec des gros guillemets de chaque côté. Et la plus de l'expression issus d'immigration, on s'entend bien. Et la plupart d'entre eux viennent de milieux modestes, on va dire de milieux ouvriers. Il y a des parents, quelques-uns qui sont chômeurs. L'institutrice s'appelle Virginie et elle nous accueille. Elle accueille Olivia Gesbert dans sa classe avec ses enfants charmants, sympas, souriants. Et on va parler de la réclame. On va parler de la... Non, pas de la réclame, je suis sûr que c'est un mot. Ça, c'est un mot de vieux. Les enfants ne doivent plus employer ce mot de réclame. Un petit détour avant par la Suède. En 1999, il y a eu un vrai branle-bas de combat dans le milieu publicitaire. En Suède, on voulait réglementer la pub. On voulait limiter la pub pour les enfants, concernant les enfants. Eh bien, aussitôt, ça a été une véritable levée de boucliers dans la presse française. Le magazine Stratégie s'indignait, privé de pub, disait-il, comme s'il s'agissait d'une punition. Le quotidien Libération s'indignait également et accusait les Suédois de vouloir priver les enfants des publicités qui les concernent. Priver les enfants des publicités qui les concernent. Le quotidien Le Figaro sonna l'alarme. La pub pour les enfants en danger, s'indigna Le Figaro en fulminant contre le jusqu'au boutisme suédois et Télérama. Télérama présenta la Suède comme un pays, je cite, traditionnellement ultra protecteur en matière de jeunesse, et cita un professionnel qui dit tout en trois points, je cite, restreindre ou interdire la pub pour et avec les enfants serait inutile, anti-économique et contraire à l'esprit français. Voilà, c'était un papier de François Brune, qui est connu pour son travail sur la pub, disons plutôt contre la pub, et la façon dont la pub s'immisce dans les esprits jusqu'à devenir se faire oublier complètement, et commence évidemment le plus tôt possible dans l'enfance, mais vous savez bien que dans la moindre maternité de France, à peine l'enfant paraît, Danone est déjà là, pourrait-on dire. Et c'est ce conditionnement qu'on va voir à l'œuvre aujourd'hui. Je le disais, ça date pas d'hier, la réclame ne date pas d'hier, elle a pas toujours existé. Le conditionnement des êtres humains est une vieille coutume, on peut dire. Le dressage de l'être humain est une vieille coutume dont aujourd'hui la publicité fait partie, au point d'envahir beaucoup plus nos espaces mentaux, notre culture, que nous ne l'imaginons.
P-U-P-L-I-C-I-T, accent aigu, si je m'en rappelle.
J'ai 8 ans et demi.
Mes parents, alors ma mère est infirmière et mon père, il est prof de mécanisme au lycée Blaise Pascal.
Tu m'as dit, toi, combien t'avais de télé chez toi ?
J'en ai que deux. Une dans la salle et une dans la chambre de mes parents.
Que deux, tu trouves que c'est pas beaucoup ?
C'est vraiment pas beaucoup. Mais ils ont pas voulu nous en acheter une parce que nous, comme on aime bien regarder la télé, le soir en cachette, on regarde la télé dans leur chambre. Mais quand ils arrivent, ils le savent.
Quand ta mère, elle va faire les courses au supermarché, est-ce que tu vas avec elle ?
Oui, des fois.
Et il y a un truc que toi, tu lui demandes toujours d'acheter parce que t'adores ?
Non, jamais. J'ai jamais réclamé, moi.
Menteuse !
Une seule fois. J'ai demandé d'avoir une collection de livres sur les animaux. C'est tout.
Mais pour manger, pour le petit-déj et tout, tu demandes jamais rien ?
Bah, les gâteaux, on mange plus de gâteaux, moi, non.
Pourquoi ?
Parce qu'on fait un régime pour pas prendre de poids, ni perdre, ni prendre. Le petit déjeuner, c'est bout de pain avec confiture, beurre, jambon, truc comme ça. Et bah, du lait et du chocolat en poudre. Nesquik.
C'est quoi la pub de Nesquik, justement ?
Je préfère regarder la pub qui est sur la boîte. Ah bah en fait, c'est quatre boîtes différentes de différents goûts. Alors t'as fraise, il y a vanille, il y a plein de goûts. Et en fait, c'est du chocolat mélangé avec ce fruit.
C'est l'heure de nos céréales Nesquik.
Le chien des voisins est dans le jardin et il garde nos céréales Nesquik.
Il faut qu'on les récupère.
C'est trop bon.
J'adore ce goût de chocolat.
On n'a qu'à le faire courir après un chat.
Le problème, c'est qu'on n'a pas de chien.
On va en faire un.
Par deux.
Vas-y, Cookie.
Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos céréales Nesquik ?
Une seule céréale au bon goût de Nesquik.
Nesquik fait ça. Des chips, je mange un petit peu pour les pique-niques. Mais sinon, c'est pas des chips, c'est des gâteaux apéritifs. Monster Munch. Monster Munch, c'est des gâteaux en forme de fantôme. Donc t'as nature ou ketchup. On achète des natures. À la fin, c'est un enfant qui dit Monster Munch, mieux vaut tous les capturer.
Ça, c'est un slogan. En fait,
c'est trois enfants qui jouent avec les gâteaux et qui font semblant que ce sont des vrais fantômes. Alors, ce sont des ennemis. Et à un moment, ils disent qu'il y a un martien qui s'échappe. Ah. En fait, c'est des martiens. Et puis, il y a la maman qui arrive. Et puis, elle attrape le gâteau et elle dit... On a encore eu chaud. Et puis, ben, après, elle le mange. Et puis, ben, ils en mangent tous un. Je sais pas, moi, cette pub, j'ai pas trop aimé parce que ça fait grossir et tout. C'est juste pour vendre, c'est pour gagner de l'argent. Et moi, j'aime pas trop comme ça.
Qui t'a dit ça ?
En fait, gagner de l'argent, c'est un besoin. Mais il faut pas vraiment abuser comme ça pour faire grossir les gens, quoi.
En mangeant moins de produits sucrés et gras, tu protèges ta santé. Pour plus d'informations, retrouvez les repères du programme national Nutrition Santé sur le site mangerbouger.fr.
Alors, c'est comment ?
C'est bon, mais c'est trop, hein. Mais c'est bon.
C'est comme ça qu'on les mange, hein.
Mais comment t'as fait ça, toi, que ça va faire ?
Ah, c'est gentil, merci.
Tac, 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 tic, tac, tic, tac, tic, tac.
Alors, t'as compris pourquoi c'est trop ?
Je rigole.
Nouvelle pâte à cookies de Herta. Herta, le goût des choses simples.
À vos marques, prêt, servez.
C'est l'heure de nos céréales Nesquik.
Herta, le goût des choses simples.
Et devient la star. Oui, la star de la prochaine pub Lunch.
Les enfants sont des cibles. Pour la publicité, on peut franchement parler, je le répète, de pédophilie mentale. C'est une expression que reprendrait, je pense, facilement, s'il n'a pas déjà employé, quelqu'un comme Paul Ariès. Je parlais de François Brune, mais Paul Ariès, lui aussi, fait partie de ceux qui, inlassablement, il est enseignant et chercheur en sciences politiques à l'Université de Lyon, de ceux qui, inlassablement, sont des véritables croisés de contre l'envahissement de la publicité en général et à l'école en particulier, évidemment, parce que c'est là que ça commence, même si ça commence avant même l'école, on le disait, et il est le porte-drapeau de la campagne des casseurs de pub. Il y a aussi un mouvement qui s'appelle le rap contre l'agression publicitaire. Et évidemment, il est effrayé devant la banalisation de l'expérience commerciale au sein de l'expérience pédagogique. Alors, on le retrouve, Paul Ariès, qui nous donne une série de chiffres et d'indications assez édifiantes.
Merci. Si les publicitaires sont prêts à dépenser autant, je dirais pour les spots publicitaires. Il faut toujours se rappeler quand même que si un jeune Français subit déjà 20 000 spots publicitaires par an, il y a encore de la marge, puisqu'un jeune Américain en subit 40 000. Et je dirais que si aujourd'hui on dépense entre 150 000 euros et 1 million d'euros par spot publicitaire, et que très souvent on y travaille pendant plus d'années, c'est sans doute que ça a une certaine efficacité. Il suffit de regarder quels sont... Je veux dire, quelle est la Bible, notamment, hein, des publicitaires qui travaillent sur le domaine de l'enfance, c'est-à-dire Brainshield. Ce qu'on se rend compte, ce qu'ils nous disent, tout d'abord, c'est que les dépenses des enfants doublent aujourd'hui tous les 10 ans. Hein, c'est-à-dire que, globalement, le budget des enfants n'a jamais été aussi important. En France, actuellement, pour les 6-14 ans, c'est 12,35 € hein, par mois. Pour les 15-17 ans, c'est plus de 37 €. Et ceci, je dirais, sans tenir compte de l'argent donné pour Noël, pour l'anniversaire, pour les bons résultats.
C'est quoi ? C'est les dépenses directes, l'argent de poche ?
Ça, c'est l'argent de poche. Et à côté, il y a le pouvoir de prescription des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant ne décide pas seulement ce qu'il consomme, il décide aussi ce que toute la société, toute la famille va consommer. Et aujourd'hui, on estime à près de 2 milliards d'euros ce pouvoir, effectivement, de prescription. Et je dirais le grand danger, c'est que les enfants sont victimes de plus en plus jeunes, dans le sens où dès 2 ans, aujourd'hui, on sait que les enfants commencent à réclamer non seulement tel ou tel produit, mais telle ou telle marque. Et que dès l'âge de 4 ans, ils réalisent eux-mêmes leur premier achat. Et il y a une étude qui a été faite par la société Findus en 2005 et qui montre que dans une famille sur deux, les enfants, par exemple, mangent aujourd'hui différemment de leurs parents. Et que les familles ont également tendance à manger de plus en plus selon le goût des enfants. Non seulement parce que la pression publicitaire augmente, parce que les techniques aussi s'affermissent, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notamment l'utilisation dans le domaine du neuromarketing, des derniers apports, hein, de la neuropsychiatrie, on sait comment finalement une pub interagit avec non seulement la conscience, mais l'inconscient. Le neuromarketing, c'est d'abord des études qui sont faites, c'est-à-dire qu'on va utiliser notamment des appareils médicaux, hein, comme des IRM, pour regarder, pour mesurer quel est l'impact d'une publicité sur le cerveau. On peut finalement arriver à définir des techniques de dressage du comportement des enfants, mais je dirais dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que c'est l'ensemble aujourd'hui des modèles de consommation des familles qui sont de plus en plus soumis en apparence, je dirais, au dictat des enfants, mais en réalité, en fait, c'est le pouvoir des marchands, c'est le pouvoir des publicitaires.
Danone, février 68.
On aime les yogourts Danone, tous les yogourts Danone.
Pour les hommes,
pour les femmes, pour les jeunes
et les enfants.
Un Danone avec des fruits,
un Danone fruité
ou nature.
Choisissez encore votre yogourt parmi les veloutés Danone.
Velouté nature, velouté aux fruits. C'est naturel, c'est frais, c'est Danone.
Mais aussi
Danone à ses gourmandises.
Les éclairs Danone et les Danis.
Pour le dessert, le goûter, que de friandises.
Les yogourts Danone,
ils sont tous bons, bons, ils sont très bons.
Ils font du bien, bien,
beaucoup de bien. Les yogourts Danone,
y en a beaucoup et pour tous les goûts.
Naturel comme un Danone.
Oui, Danone, ça me dit quelque chose, oui. J'en ai déjà vu une. C'est la pub avec avec Ronaldinho, que sa mère, elle parle. Elle dit que quand il était petit, il était tout le temps le premier à l'entraînement et qu'il était très gentil et que les Danone au chocolat, il adorait ça et qu'il était donneur. Et on voit à la fin de son enfance qu'il est avec sa petite sœur et qu'il lui donne une cuillère de Danone.
Ça, c'est pas plutôt Lilian Thuram ?
Je sais plus.
C'est le grand joueur de foot black.
Oui.
Lilian, le football a toujours été un plaisir pour lui. Comme sa danette au dessert. Oh, qu'est-ce qu'il aimait ça. Mon Lilian, il est devenu un grand champion. Mais il n'a pas changé. Je suis si fière de lui.
Danette, c'est bon d'être ensemble.
Tu crois ça que c'est bon pour la santé, le Danone au chocolat ? Tu vas devenir un vrai sportif comme ça ?
Bah, pas forcément. C'est lui qui voulait être sportif. Sinon, non, c'est impossible. Le chocolat, c'est trop sucré. Ça pourrait être de l'arnaquerie, c'est tout. Hein, mais des grands sportifs comme ça, non, hein, c'est impossible quand même.
Parce que les garçons, en fait, ils veulent devenir des sportifs. Tu penses que c'est pour ça ? Alors, ils regardent, ils veulent manger la même chose.
Oui. Mais je pense qu'ils auraient tort parce que c'est, ils vont plus, ça va plutôt leur faire grossir que leur donner de force pour faire du sport. Hein.
Coco Pops de choc! C'est deux céréales chocolatées, une croustillante plus une fondante dans le même paquet. C'est nouveau! Deux sensations différentes pour un super goût de chocolat. De choc, tellement chocolat qu'on veut tous y goûter. De céréales qui font des crocs, c'est Coco Pops de choc.
J'ai 14 ans. 13 ans.
14.
13.
10.
Qui a la télé chez soi ?
Tout le monde.
Qu'est-ce que vous aimez regarder à la télé ?
Football. Le foot. Jouer à la play.
Ok, et ça vous arrive de regarder les publicités quand ça passe au milieu du foot ?
Ouais.
Ouais.
C'est quoi vos pubs favorites, celles qui vous font le plus rire ?
Celle de Ronaldinho quand il était petit. Ouais, la pub. On parle du foot.
C'est un vieux, il raconte la vie de Ronaldinho quand il était petit. Danone, Danette.
Pourquoi elle vous plaît cette pub ? Parce qu'il y a du foot dedans ?
Ouais, un peu.
C'est qui vous, vos sportifs préférés ?
Ronaldinho. Zizou.
Zizou ?
Poletta. Figo.
Quand ils mettent des joueurs de foot à la télé dans les publicités, pourquoi vous pensez qu'ils font ça ?
Pour gagner de l'argent.
Aussi pour gagner une voiture. Pour qu'ils soient plus célèbres.
Et vous pensez pas que c'est parce qu'ils savent que vous, vous aimez peut-être le foot et que du coup, vous allez mieux retenir cette publicité ?
Non.
Si.
Pour acheter Danette, oui.
Et ça marche ? Est-ce que vous achetez Danette, vous ?
Oui, des fois.
Ouais, parfois.
Arrête, ne me touche pas, toi.
Ta mère va faire les courses. Qu'est-ce qui se passe si elle les achète pas ?
Si, elle va les acheter.
Pourquoi ?
Parce que je la demande.
Et elle fait tout ce que tu lui demandes, elle l'achète ?
Bah ouais. Parce que si elle me demande de bien travailler, moi je la fais. Si elle me dit des trucs, je les fais. Moi, si je la dis des trucs, elle la fait.
Ah. Là aussi, on assiste à un véritable viol de l'univers de l'enfance. Parce que c'est pas simplement, même si on a raison de le dénoncer, je dirais une sorte de brouillage en ce qui est du domaine de la pub et ce qui est du domaine d'un film, y compris d'animation. Ça va bien au-delà, c'est-à-dire que ce qui est montré, finalement, c'est la nécessité pour l'enfant de s'inscrire seulement dans un spectacle. Et si on choisit des petits personnages pour animer ces pubs, c'est parce que l'identification va être beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on va offrir par ces icônes, par ces petits personnages, des sortes de modèles aux enfants qui viennent se substituer aux modèles qu'apporte habituellement la société, c'est-à-dire les parents ou le maître d'école. Je dirais, si on met aussi très souvent en scène des situations ludiques, c'est parce que, je dirais, le fait d'instrumentaliser le jeu, c'est une excellente façon pour pénétrer dans l'imaginaire des enfants. Je dirais, la pub va de ce fait forcer les résistances que l'enfant pourrait opposer au dressage publicitaire. On a un professeur de l'université catholique de Mons en Belgique, Christian Derbex, qui étudie depuis longtemps les expressions faciales des enfants à qui on projette des spots publicitaires. Et ce qu'on peut lire sur leur visage, ce sont des phénomènes de joie, de surprise, de dégoût, d'intérêt. C'est-à-dire que ce travail permet de voir en quoi la publicité réalise un traitement exclusivement affectif. Et je dirais que cette primauté de l'affectif, c'est ce qui explique cette création de personnages, hein, le tigre Tony chez Frousty, le lapin chez Nesquik, le prince de Lu, Pépito, le petit Mexicain gourmand. Je dirais que ce sont de véritables héros, mais ce sont des héros commerciaux qu'on va imposer dans l'imaginaire. Et je dirais que c'est d'autant plus pervers que les publicités sont de plus en plus faites à la façon des films. Donc l'enfant n'a plus la capacité de dire « ça, c'est de la fiction ». Ou ça c'est de la pub, ou ça c'est de l'information, ou ça c'est de la pub. Et pour ça les publicitaires ont besoin de ces techniques de brouillage. Je dirais qu'on peut s'identifier beaucoup plus facilement à un bon gros tigre qu'à des pétales de maïs au chocolat. Et l'enfant qui s'identifie à ce bon gros tigre, eh bien je dirais que c'est un consommateur qui est accro. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on va pouvoir le fidéliser. Parce que sous prétexte de jouer avec lui, eh bien on s'est joué de lui. C'est-à-dire sous prétexte de se situer à son niveau de fonctionnement psychique, on a réalisé un véritable viol de son imaginaire. Et alors si on bénéficie en plus, ce qu'on développe systématiquement, des petits caddies pour enfants, alors là ça devient le rêve. Parce qu'effectivement, on va pouvoir se mettre à fonctionner sur le même mode que papa-maman, et on va pouvoir s'imaginer que devenir adulte, eh ben c'est tout simplement accéder, je dirais, à ce monde merveilleux qui n'est pas seulement celui de Disney, mais qui est aussi celui, je dirais, de la consommation.
Pub, c'est la pub.
Pub,
c'est la pub.
Le samedi mat, je mate la télé. J'attends la pub entre des dessins animés. Avec mes potes, je connais tous les spots. À la récré, je sens que je vais m'éclater. À l'endroit ou à l'envers, par petits bouts, c'est pas l'enfer. Les chocs à pic au chocolat, c'est beaucoup plus facile que la règle de 3. C'est le clip de Baby la pub. 5 ou 6 à la chaîne, partout tout plein sur les chaînes. On tape comme on dégaine. On connaît tout sur tout, sur tout ce qu'on aime. C'est le clip de Baby la pub. Et même quand y'en a plus, on attend la prochaine.
Oui, la star de la prochaine pub Lunch.
Chargement, vos enfants s'imaginent qu'ils vivent de grands.
Qui s'offrent pour Tony Parker. Frosty, c'est du lait en barre. Frosty sur une couche de lait pour qu'elle rentre dans un sac. Coco Pops de choc.
Le baby marketing, ça s'appelle. Le baby marketing, c'est ce qui consiste à, vous avez compris, à étudier et à œuvrer pour en considérant que l'enfant est une cible et les parts de marché grandissent avec cet enfant. Vos parts de marché grandissent avec lui, répètent les spécialistes du baby marketing à l'adresse des annonceurs. Alors, il y a la dimension du conditionnement publicitaire, mais ce conditionnement dépasse largement les stratégies commerciales prises isolément. Je parlais de la réclame autrefois, ou de la publicité, on entendait une publicité des années 60. Aujourd'hui, c'est un système plus général par lequel passe l'idéologie de la consommation, hein, l'idéologie de la consommation, l'état d'esprit des ménages, le moral des ménages, etc. Tout ça, c'est, et la consommation est devenue presque un acte patriotique de solidarité. Il faut consommer pour faire de la croissance et de l'emploi, parce que l'emploi serait au bout de la croissance. On en est presque là. Le consommateur serait un acte presque politique, puisque on suit. Je suppose que si on boycotte un produit, eh bien, on peut de cette façon s'exprimer et agir presque politiquement. Souvenez-vous, comme il avait été question de boycotter les produits Danone à un certain moment, ou Total, au moment du naufrage de l'Erika, etc. Ça avait été des idées qui avaient même peut-être un début d'action comme ça des consommateurs. Et à travers ces publicités à destination des enfants, ce marketing publicitaire à travers les enfants, c'est en fait cette idéologie de la consommation qui passe et qui est une face indispensable, évidemment, de la marchandisation du monde. C'est-à-dire que quand on dit le monde est une marchandise, le slogan peut paraître déjà un peu dépassé, mais il est quand même, il passe par la pub. Et il passe par la pub en s'adressant en priorité et dès le début à l'enfant.
Bon, en résumé maintenant, à chaque fois qu'il y aura la pub à la télé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la télé allumée ou on l'éteint?
Je dirais laisser la télé allumée parce que c'est plus facile, on peut regarder ce qu'on peut acheter, si c'est moins cher ou si c'est plus cher. Comme ça, on sera avant ce qu'on devra acheter à l'avance.
Parce que la pub te dit si c'est moins cher ou plus cher, elle compare.
Une fois, c'était une pub pour un abonnement téléphonique. J'ai vu que c'était moins cher. C'était à 1,80€ l'appel pour pouvoir, et c'était plus longtemps, l'appel illimité à 29,90€ par mois. Abonnement téléphonique gratuit.
Et toi, t'as un téléphone à toi ?
Non, moi j'ai jamais eu de téléphone à moi.
Qui paye la note de téléphone, la facture de téléphone ?
C'est papa et maman. Moi, je les aide des fois parce qu'il faut acheter des choses. Donc, comme ils ont moins d'argent dans leur porte-monnaie, bah, je leur donne de ma tirelire.
Et tu leur as recommandé de prendre plutôt l'abonnement téléphonique à 1,80€ ?
Bah oui.
Tu leur as dit que tu avais vu ça ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Mais ils regardent aussi. Hein.
Et c'est important pour toi, par exemple, que les publicités donnent un peu ces prix-là, comme ça, pour être sûr que tes parents, bon, ils vont pas payer trop cher quelque chose qui peut être payé moins cher, quoi.
Oui. Je pense que ce serait l'idéal.
Et ça, tu me dis, c'est la pub qui va t'aider à te conseiller, en fait,
Peut-être un peu la pub. Et aussi dans les magasins, on peut appeler. Ils ont même des numéros de téléphone pour si on veut avoir des conseils. Comme c'est pas Danone, c'est Danacol. Bah, ils donnent des conseils pour vraiment, vraiment avoir la vraie assurance que ça fait vraiment baisser le taux de cholestérol, Danacol. Donc, ils donnent le numéro de téléphone sur la pub. C'est pour ça que je recommande de regarder la pub si on a des produits qu'on n'est pas sûr. Quand j'ai regardé la pub, ils ont dit que fallait manger, bien manger, équilibré, bouger et boire Danacol tous les jours. Il y a eu aussi une pub de céréales, si on sent ballonné ou lourde, il y a plein de choses. En fait, c'est pas très facile à expliquer tellement il y a de pubs pour ça. Ce que je recommande, c'est les produits avec 0% de matière grasse. C'est ça l'idéal.
Et ça, la pub te dit quels produits ont 0% de matière grasse ?
Une pub, oui. C'est taille fine.
Ah !
Taille fine, ça c'est l'idéal. Ils mettent 0% de matière grasse. Boissons, céréales et tout. Tout ce qu'ils ont, c'est 0% de matière grasse. C'est ça qui est bien.
Les desserts allégés en matière grasse contiennent parfois beaucoup de sucre. La crème dessert taille fine n'a rien à cacher. Allégée en matière grasse et en sucre. Crème dessert taille fine en toute transparence.
Alors ça, tu demandes à ta mère de t'en prendre ou...
Elle achète des yaourts aux pruneaux taille fine. J'adore, c'est 0% de matière grasse en plus.
Je voulais juste voir ton petit dessin à la sortie, c'est lequel le tien en fait, Léa ?
Lequel ? Dans celui-là ?
Ouais.
C'est celui-là. C'est Léa mange du chocolat parce que j'ai adoré le chocolat. J'adore le chocolat en fait.
Parce que le chocolat 0% de matière grasse, ça marche pas top. Hein.
Non !
On n'a pas vu de pub encore pour ça, où il y en a déjà ? Un jour, hein, tu sais, ils vont bien inventer ça. Hein.
Bah oui, j'aimerais bien, d'ailleurs.
C'est de Léa, par exemple, 8 ans, qui se souvient à la virgule près du montant des nouveaux forfaits téléphoniques de je ne sais plus quel opérateur de téléphonie, alors qu'à 8 ans, elle n'a pas elle-même de téléphone portable. Pourquoi cette pub a pu la toucher ?
Déjà, ça montre que cette petite fille est un parfait exemple des enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a un œil ouvert sans arrêt sur des phénomènes qui relevaient d'abord des phénomènes d'adultes. Les enfants sont de plus en plus, submergés par des problèmes d'adultes. Parce que l'institution familiale est en pleine évolution, sans doute pour le meilleur et pour le pire. Et que l'enfant subit la pression de la société comme sa famille. Parce que l'enfant est dans une famille déstructurée, parce qu'il y a les difficultés de fin de mois, parce qu'également on va demander systématiquement son avis à l'enfant, y compris pour l'achat d'une voiture ou pour le choix des lieux de vacances. Donc l'enfant ne fait plus la part entre ce qui lui revient en propre et ce qui revient aux adultes. Et je dirais que la conséquence, c'est que ces enfants qui grandissent trop vite, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer, hein, parce qu'ils ont une sorte d'emploi du temps de cadre supérieur, eh bien ensuite, ça fait des adultes pas aboutis. Et je dirais que cette petite fille qui est capable, effectivement, de citer au centime près les tarifs téléphoniques, on peut, en n'en pas douter, s'imaginer qu'elle a un pouvoir de prescription extraordinaire sur ses parents. Mais je crois qu'à ce moment-là, on passe très vite de ce que François Brun appelle l'enfant roi à l'enfant proie. C'est-à-dire, sous couvert de libérer les enfants, en réalité, ce qu'on développe, c'est pas une tyrannie de l'enfance. Ce qu'on développe, c'est la dictature de la pub sur les enfants.
Ici, nous dressons les chiens de nos clients pour les aider à réduire leur facture de portable. Nous les entraînons pour qu'ils interviennent dès que leur maître essaie de téléphoner. La plupart de nos clients sont satisfaits du service.
Mais il nous reste quelques petites choses à améliorer.
Il y a plus simple pour réduire votre facture de portable. Avec Télé2Mobile, vous bénéficiez de forfaits très économiques. Et avec Télé2Mobile, votre portable avec appareil photo est à 0€.
Est-ce que c'est pas vous, Paul Ariès, finalement, qui infantilisez nos enfants? Enfin, je me souviens avoir lu plusieurs interviews de publicitaires ou de responsables d'agences en marketing, et tous nous disent qu'aujourd'hui, bien, les enfants sont forcément plus critiques, car ils sont beaucoup plus responsabilisés qu'avant. Finalement, nos enfants grandissent plus vite.
Ce qui va être proposé par les publicitaires, c'est une sorte de fausse stratégie d'émancipation. Et je dirais un peu en deux temps. D'abord, les publicitaires vont dire aux enfants, il faut que tu deviennes un grand. Il faut que tu deviennes un grand, c'est-à-dire que non seulement que tu grandisses sur le plan physique, mais que tu deviennes plus costaud, plus fort, plus puissant. Et ça, je dirais que c'est globalement tout ce qui est montré avec la publicité dans le domaine de l'alimentation, où on va vanter les vertus nutritionnelles des produits. Je dirais que si les publicitaires jouent autant sur ce que caractère nutritionnel, voire hygiéniste, je crois que c'est pour deux raisons. Déjà, c'est bien sûr une façon de se protéger contre toutes les critiques sur la malbouffe. Et puis, c'est aussi une stratégie qui vise à déculpabiliser les parents. Et puis, il a une autre fonction, c'est que finalement, je dirais que ce discours hygiéniste, il devient très vite aussi une façon de vanter une sorte d'hyper-industrialisation. Ce qui serait dangereux, c'est le goûter familial, parce qu'effectivement, lui, il serait pas fait par des nutritionnistes, il aurait pas, je dirais, le logo qui est celui de la science ou d'une grande marque. On a aujourd'hui cet effacement de la fonction de la mère et du père. Et je dirais que cette pseudo-stratégie d'émancipation est forcément un leurre pour deux raisons. La première raison, c'est que pour grandir les enfants, ce qui est proposé en quelque sorte, c'est de rapetisser les parents. Hein, c'est-à-dire que les parents sont donnés comme ceux qui ne savent pas. Par exemple, dans une publicité Kinder extraordinaire, hein, on voit très bien que la mère sait même pas qu'existe le nouveau produit. Il faut leur envoyer à l'école Kinder. Dans une pub Lactel, on voit aussi comment la petite gamine va finalement réapprendre à son père qu'il peut boire du lait. Effectivement, dans ce lait, il y a beaucoup moins de lactose, donc tu peux le boire, tu le supporteras. Et je dirais tout ceci sous l'œil attendri de la mère. C'est l'inversion du modèle parental. Vous avez une pub extraordinaire de Disney où on voit toute la famille qui va au parc d'attractions et c'est papa qui est sur le manège et qui fait des tours de manège et chaque fois qu'il passe devant ses enfants lui font un petit coucou. C'est aussi une pub extraordinaire de McDo où on voit un petit grand-père avec sa petite barbiche et petit lorgnon. C'est la première fois qu'il va dans un fast-food, donc il se trouve avec ce machin devant lui, il sait pas trop comment faire. Donc c'est en regardant les plus jeunes qu'il va apprendre à manger. C'est-à-dire ce qui est proposé, c'est une sorte de mariage entre l'enfant et le produit contre ses parents.
Ah, vous êtes là ? Bonjour les amis.
Moi je regarde les dessins animés souvent.
Moi je regarde les dessins animés un peu tout le temps.
Sur la 1 et la 3.
Oui, oui, yes, well, very good.
Des kangous juniors.
Bouge pas.
C'est des kangous juniors après la pub.
Et Bouli Bouli, j'adore aussi.
Ouais.
Il faut
faudrait pas que tout ça vous décourage de faire des enfants ou de vous entraîner à faire des enfants, amis auditeurs. Merci à tous, c'était un reportage d'Olivia Gesbert. C'était la première partie, deuxième partie, demain, bravo, vous aviez deviné. Merci à Virginie Benito et à ses élèves, merci à Paul Ariès. À lire le numéro 33 de la décroissance, protéger les enfants des publicitaires et de Paul Ariès, petit manuel anti-pub, démarque-toi, aux éditions Goliath. Et également, à suivre d'auprès les ouvrages de François Brune, son fameux Bonheur conforme, Gallimard 1985, et Idéologie aujourd'hui, Parangon 2004. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission à la base. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Inter ou bien sur la-bas.org, la-bas.org. Technique aujourd'hui, Jean-Claude Barré et Fabrice Desmaz. Réalisation, Yann Chouquet et Koy Nguyen, assisté de Pascal Pascariello. C'est Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur. De le numéro est 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.